Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants. Bonjour, c'est Chloé Gabrielli, la conteuse. J'espère que vous allez très bien sur notre antenne, que tout va bien pour vous. Si vous écoutez Fréquence 7, c'est que vous êtes heureux. C'est normal, c'est une radio qui rend heureux. Notre émission commence désormais par un petit peu de réflexion sur pourquoi faut-il raconter des histoires. J'ai une réponse du grand conteur Abby Patrix. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'ai eu la chance de le rencontrer alors que j'étais toute gamine, et je pense qu'il n'a pas été pour rien dans ma formation de conteuse. Et voilà ce qu'il répond quand on lui dit pourquoi faut-il raconter des histoires. Eh bien, il répond par une histoire, la voilà. C'est l'histoire d'un homme qui se plaignait tout le temps. Il disait que le monde était mal fait, que la société était inutile, l'homme était raté, la femme envahissante, les enfants bruyants. Il se plaignait tant et tant que dans le village, on lui a dit « Écoute, t'es Jérémiade, tes pensées noires, on a peur que ça se propage. Ça t'ennuierait pas d'aller un petit peu plus loin dans cette maison là-bas, en dehors du village ?» Et l'homme a dit « D'accord ». Il a quitté son village, mais pas ses pensées noires. Et toute la journée, à la chasse ou chez lui, il ruminait toujours les mêmes mots. Le monde est raté, l'homme est laid, la société inutile, la nature laide. Et pendant qu'il maugrait ses pensées noires dans sa maison à l'écart du village, dans le village, une femme a pensé « C'est dommage de perdre un homme. Il n'est pas mauvais, il est simplement son cœur est fermé. Je vais aller vivre avec lui et je suis sûre que son cœur va s'ouvrir. » Elle est allée vivre avec lui un jour, deux jours, trois jours. On ne peut pas dire que le matin du troisième jour n'a pas eu un léger sourire sur le visage de l'homme, mais très vite, ses pensées noires ont repris le dessus. L'homme raté, la société inutile. Quant à la femme, elle est trop femme. « Bien, dit la femme, à moi toute seule, j'y arriverai pas. » Ils ont fait un enfant, puis un deuxième. À la naissance du deuxième enfant, la femme a pensé « À la vue de sa progéniture, le cœur de l'homme ne peut que fondre. » Et c'est vrai qu'au début, on a eu l'impression que le cœur de l'homme allait fondre. Le cœur de père, le cœur de Pierre, se briser devant le fils et la fille que sa femme lui avait donné. Mais très vite, les pensées noires ont repris le dessus. L'homme raté, la femme trop femme, les enfants bruyants, envahissants. Ce matin-là, l'homme est parti à la chasse. La femme est sortie de sa maison. Elle s'est tournée vers le ciel. Elle est tombée à genoux et elle a dit « Créateur, si tu existes là-haut dans le ciel, fais quelque chose. Quelque chose pour cet homme-là. Moi, je ne peux plus rien pour lui. » L'homme, lui, était parti à la chasse. Et pendant qu'il chassait, il pensait, il maugrait ses pensées noires. Le monde est laid, l'homme raté, la femme trop femme, les enfants bruyants, envahissants. Le chemin est trop long, l'herbe colle à mes souliers, l'eau est mouillée. Le soleil trop chaud, le jour trop long, la nuit trop courte, la nuit trop froide, la pierre trop dure. Et à ce moment-là, il y a eu un bruit terrible. Le ciel s'est ouvert et la voix du Créateur a frappé au pied de l'homme. « L'homme, quel est ton problème ?» L'homme a regardé le ciel et il a dit « J'ai pas de problème, mais je suis heureux de te rencontrer. Le monde que tu as fait est laid. L'homme est raté, la femme trop femme, les enfants bruyants, envahissants, la société inutile, la nature laide, le jour trop long, le « ça suffit !» a dit le Créateur. J'ai entendu. Très bien. Puisque mon monde ne te plaît pas, je vais te retirer tout ce que tu n'aimes pas, d'accord ?»« Ah, d'accord !» a dit l'homme. Et l'homme a recommencé à marcher sur le chemin. Mais très vite, il a senti que l'herbe ne collait plus sous ses pieds. Le bayou s'est asséché, les animaux ont disparu, les arbres se sont évanouis, le soleil et la lune cachés derrière les nuages qui s'éloignaient comme un mirage, et bientôt le village qui s'éloigne, le chemin sous ses pieds qui disparaît. Il ne voit plus au loin que sa petite maison, sa femme et ses enfants qui jouent dehors, et là, il ne peut pas s'en empêcher. Il court, il court, il court, il saute dans le ciel. Et voilà, il est tout seul, dans le vide, le néant, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Le monde, le soleil, la lune, le chemin, la maison, les pieds, la terre, il n'y a plus rien. Il est suspendu dans le néant, tout seul. Voilà, c'est bien. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus aucun sujet pour grogner, ni sur l'homme, ni sur la terre, ni sur les femmes, ni sur les enfants, ni sur la société. Il n'y a plus rien, donc il est bien. Il est tranquille, il est là. Plus aucun désir. Pas besoin de penser, pas besoin de manger, pas besoin de dormir, et le temps passe, le temps. Une éternité passe. Il est toujours là, seul, dans le vide, bien. Et puis bon, l'éternité, c'est un peu long quand même. Donc il attend. Et à un moment, il se dit, bon, il va se passer quelque chose quand même, non? Mettez-vous à sa place. On va pas rester suspendu dans le vide pendant toute l'éternité. Puis ça devient vraiment très très long. Puis tout à coup, il se met à penser. Je vais tout de même pas rester ici pour toujours, dans le vide, dans le néant, comme ça. Et puis la peur, le tremblement, l'effroi. Tout son corps se met à trembler. Son cœur se met à battre. Il se met à crier, à hurler. « Créateur, tu ne vas pas me laisser ici tout seul pour l'éternité. Enfin, il n'y a rien ici, il n'y a que moi, mon corps, mes pensées, ma tête. » « Je suis vivant, mais je suis mort, fais quelque chose !» Mais personne ne lui a répondu, rien. Il a hurlé, supplié. Il a commencé à se frapper le corps, à s'arracher les cheveux, la peau, les yeux, tout. Il hurlait, mais rien autour de lui n'avait prise sur rien. Alors il a tout abandonné, lui-même, ses pensées. Il s'est senti tellement vide qu'il s'est mis à pleurer. Et il a pleuré, pleuré, pleuré. Pleurait, pleurait tant et tant qu'il s'est mis à supplier. « Créateur, je t'en prie, rends-moi le monde. » Et une toute petite voix à l'intérieur de lui-même a répondu. « Hélas, je ne peux refaire ce que j'ai défait. Si tu veux le monde, nomme-le toi-même. Essaye, peut-être que ça va marcher. » Et l'homme a senti dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, toutes ses pensées, ses images tournoyées à l'intérieur de lui-même, nommer le monde, nomme, nomme, pour être un homme, nomme. Et il a nommé. Il a nommé la terre, il a nommé le ciel, le soleil et la lune, les étoiles. Il a nommé le vent, les nuages, il a nommé l'air, la terre, le feu. Il a nommé le chemin sous ses pieds, l'herbe qui colle à ses souliers, les moustiques qui le piquent, le cri des animaux, le chant des oiseaux, tout ce qui batifole sur terre, dans l'air et dans l'eau, tout ce qui mord et qui pique. Pour être un homme, nomme. Pour être un homme, nomme. Et plus il nommait, plus le monde apparaissait. Il a nommé, nommé, nommé. L'herbe qui colle à ses souliers. Il a nommé, nommé, nommé son village. Il a nommé sa maison, sa femme et ses enfants. Et quand il est arrivé, tout le monde se levait, tout le monde regardait le soleil se lever. Il a pris sa femme et ses enfants dans ses bras et il les a serrés tellement fort. Il leur a raconté toute l'histoire que je viens de vous dire. Il les a suppliés. Il leur a demandé qu'avec lui, chaque matin au réveil, ils aillent nommer le monde pour que plus jamais ils ne disparaissent. Pour être un homme, nomme. Pour être un homme, nomme. On dit chez les Indiens Houma que l'on nomme le monde pour que plus jamais il ne disparaisse. Et nous, les conteurs, on dit qu'on raconte des histoires pour que plus jamais elles ne disparaissent. Pour être un homme, nomme. Pour être un homme, nomme. What a wonderful world. C'est pas une bonne raison de raconter ces histoires, ça, vraiment? Allez, ben, pour vous récompenser de votre écoute, ouais, c'est vrai, c'était pas trop difficile, elle était belle cette histoire, hein. Pour vous récompenser quand même, parce que vous êtes des super auditeurs, auditrices, Alors, je vous raconte une histoire qui vient d'Estonie. Oui. L'Estonie, vous voyez, au nord de la Russie, c'est un petit pays baigné par la mer Baltique. Les pêcheurs qui formaient autrefois l'essentiel de sa population redoutaient les tempêtes, mais ils tiraient leur subsistance de la mer qui donne la vie et qui peut donner la mort. Il était une fois sur une côte de la mer Baltique un pauvre village de pêcheurs. Durant l'hiver, la pêche avait été mauvaise. Les habitants n'avaient plus rien à manger. Le printemps arrivait, et avec lui des vents contraires, une mer agitée. Fallait-il attendre une meilleure saison? Les petits enfants ouvraient des grands yeux affamés. Les hommes du village se réunirent. Les uns voulaient tenter leur chance en mer, les autres hésitaient. Et si nous allions voir le vieux Karel? Proposa le chef des pêcheurs. Aujourd'hui, il ne sort plus de sa cabane, mais autrefois, c'était l'homme le plus hardi et le plus chanceux du village. J'étais gamin alors, je m'en souviens. On prétendait même que la reine de la mer était sa bonne amie et que grâce à elle, il prenait autant de poissons qu'il voulait. Peut-être pourrait-il nous aider. Les pêcheurs trouvèrent l'idée bonne et se rendirent dans la cabane du vieux pour lui parler de leurs difficultés. N'est-ce pas, père Karel? Lui demanda le chef. Vous étiez un gaillard dans le temps? Et la reine de la mer vous aimait? Est-ce qu'elle ne vous avait pas fait un cadeau magique qui vous permettait d'attirer le poisson, quelle que soit la saison? C'est vrai, répondit Karel. Et ce cadeau, le voici. Il défit le foulard qu'il portait autour du cou et le montra au pêcheur. C'était une pièce d'étoffe ordinaire, triangulaire, nouée à chacune de ses extrémités. Je veux bien vous le prêter, reprit le vieux. À condition que vous m'obéissiez. Quand vous hisserez la voile, défaites le premier nœud. Vous aurez des vents favorables. Quand vous jetterez vos filets, défaites le deuxième nœud et la pêche sera bonne. Mais ne jetez jamais vos filets une seconde fois, car la mer n'aime pas cela. Et surtout, surtout, ne défaites jamais le troisième nœud. Où vous vous en repentiriez. Nous suivrons tous tes conseils, parole de pêcheur, promirent les hommes du village en chœur. Ils remercièrent le père Karel, prirent le foulard et se hâtèrent de rentrer chez eux pour raccommoder leurs filets. Quelques-uns se chargèrent d'enduire soigneusement le bateau de poids pour le rendre parfaitement étanche. Au petit matin, ils étaient prêts à partir. Ils ramèrent d'abord avant de hisser la voile en sortant de la baie. Le chef défit le premier nœud et tout se passa comme Karel l'avait prédit. Le bateau fendait les vagues et arriva bientôt en haute mer. Alors le vent tomba, la voile se dégonfla et le bateau cessa d'avancer. « Jetons l'ancre et lançons nos filets !» commanda le chef en défaisant le deuxième nœud du foulard. Aussitôt, l'eau se mit à clapoter, des bulles d'air éclataient à la surface et les bouchons des filets dansaient. Puis tout se calma. Les hommes unirent leurs forces, raidirent leurs bras pour remonter les filets lourds, plus lourds qu'ils n'avaient jamais été. Et le poisson se déversait dans la coque, innombrable, frétillant, faisant étinceler leurs écailles d'argent au soleil du printemps. Les pêcheurs en avaient mal aux yeux. « Bonne pêche !» dit l'un d'eux. « Bonne ? Pas si bonne que ça, » grommela un autre. « Ça ne suffira pas à rassasier le village depuis le temps que personne n'a mangé. Et demain ? Comment mangerons-nous demain ? Il faut profiter de l'occasion. Nous ne retrouverons pas de sitôt une place aussi poissonneuse. Jetons nos filets une deuxième fois. » « Mais le père Karel nous l'a défendu, » fit remarquer le plus jeune des pêcheurs. « Tais-toi, gamin !» s'écrièrent les autres. « Toi qui n'as pas de famille à nourrir, tu es trop jeune pour donner ton avis. » Les pêcheurs lancèrent à nouveau leurs filets. Mais cette fois, ceux-ci remontèrent vides. Ils eurent beau recommencer. La chance avait tourné. Ils s'entêtaient pourtant et ne se résignaient pas à rentrer. « Il nous reste le troisième nœud !» dit à la fin le chef. « Dénouons-le, nous verrons bien. Qui ne risque rien n'a rien. » « Mais le père Karel nous l'a défendu, » fit le plus âgé des pêcheurs. « Si nous le faisons, nous nous en repentirons. »« Ah, tais-toi, grincheux !» s'écrièrent les autres. Toi qui n'as plus de bouche à nourrir, puisque tes enfants sont partis, tu es trop vieux pour donner ton avis. » À peine le troisième nœud était-il défait, que la mer s'agita et que les bouchons des filets recommencèrent à danser. « Voilà le poisson, voilà le poisson !» dirent tous à la fois les pêcheurs joyeux. Cependant, quand ils remontèrent leurs filets, ceux-ci ne contenaient qu'un poisson, un seul, un énorme brochet miroitant à la lumière. La queue lui manquait, comme si quelqu'un la lui avait coupée à la hache. « Quel drôle de poisson !» s'exclamèrent les pêcheurs, déçus en le lançant dans le bateau. Le soir tombait. Le soleil s'enfonçait dans les eaux. Soudain, sur la mer calmée, s'élevèrent des voix étranges. Les pêcheurs regardèrent autour d'eux, ils ne virent personne, aucun autre bateau. « Oh, c'est une mouette !» dit le plus vieux. À ce moment, une trompe retentit. Les sons prolongés remplissaient l'espace. On aurait dit l'appel d'un berger pour faire rentrer au bercail son troupeau. Une voix de femme se fit entendre. « Sont-ils tous rentrés ?» Une voix de fillette répondit. « Ils sont tous rentrés, sauf le bouc sans queue. » La trompe appela encore et encore, plus forte, plus sonore. Le brochet dans le bateau ouvrit sa gueule aux dents aiguës et, bousculant les autres poissons, s'approcha du bord comme s'il voulait plonger dans l'eau. Le chef s'en aperçut et repoussa le poisson à l'intérieur d'un coup de botte. « Ce qui se passe ne me plaît pas, il faut rentrer, levons l'ancre et dépêchons-nous » cria-t-il aux autres pêcheurs. Mais les hommes pouvaient bien se hâter, hisser les voiles, ramer de toutes leurs forces. La mer était devenue semblable à de la gelée. Le bateau y restait collé sans avancer d'un pouce. Et cela dura toute la nuit. Les pêcheurs étaient épuisés. Puis l'aube vint. Le ciel s'éclaira à l'est. Les voix reprirent au fond de l'eau leur conversation étrange. « Sont-ils réveillés? Sont-ils tous là? Ils sont réveillés, mais ils ne sont pas tous là. Il manque toujours le bouc sans queue. » La trompe sonna encore. Des clochettes tintinabulèrent. Dans le bateau, les poissons s'agitèrent, surtout le gros brochet qui ouvrait ses yeux, oui, et sa gueule aux dents pointues. « C'est sûrement à cause de lui que nous ne pouvons plus bouger. Libérons-le !» décida le chef. Il se leva, saisit avec difficulté l'énorme poisson qui lui glissait entre les doigts et le jeta par-dessus bord. « Le voilà, le voilà! Le bouc sans queue s'en revient! Regardez comme il se dépêche, il fait des bulles !» clamèrent des voix moqueuses dans les profondeurs de la mer, et des applaudissements éclatèrent. Les pêcheurs, amusés, écoutaient. Ils n'écoutèrent pas longtemps, car une tempête soudaine se déchaîna. Le vent et les vagues hurlaient, le bateau grimpait en haut des montagnes d'eau pour redescendre à toute vitesse. De mémoire de pêcheur, on n'avait jamais vu rien de pareil. Enfin, un peu avant la nuit, les hommes réussirent à aborder sur une île rocheuse et tirèrent avec bien du mal leur bateau sur les rivages. Ils se demandaient où ils se trouvaient, lorsqu'un petit vieillard surgit de derrière un rocher et vint à leur rencontre. Il était tellement voûté que sa longue barbe blanche balayait le sol. « Vous êtes ici dans l'île de Kiumaa, » dit-il aux pêcheurs. « Elle ne se trouve sur aucune carte. Les hommes ne l'accostent jamais que s'ils y sont forcés. Venez dans ma cabane, vous réchauffer et manger. Vous me direz votre histoire. » Les pêcheurs ne se firent pas prier et contèrent en détail toutes leurs mésaventures. Ils parlèrent de leurs familles affamées, de la générosité du vieux Karel, mais ils n'osèrent pas avouer qu'ils avaient désobéi et défait le troisième nœud du foulard magique. « J'ai bien connu le vieux Karel. Savez-vous, grâce à lui, où vous êtes allé ?» demanda le petit vieillard. « Dans les prairies aquatiques où sa bonne amie, la reine de la mer, envoie paître ses poissons. Ne vous imaginez pas que ce sont ces poissons-là que vous avez pris. Ils sont bien trop malins pour tomber dans les filets des hommes. Non, vous n'avez pêché que des poissons vagabonds attirés par ces pâturages. » Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi le brochet sans queue s'est laissé emprisonner. » Les pêcheurs ne répondirent pas. Ils commencèrent à regretter de n'avoir pas écouté Karel, d'autant plus que le mauvais temps continuait. Il semblait ne devoir jamais finir. Pourraient-ils remonter dans leur bateau un jour et rentrer chez eux? Leurs femmes et leurs enfants les attendaient depuis si longtemps, le buffet vide, le ventre creux. Comme les hommes se désespéraient, le petit vieillard leur dit « Je vais essayer de vous sortir de là. Donnez-moi le foulard du vieux Karel. » Le chef des pêcheurs le tira de sa poche et le lui montra avec embarras. « Hé, comment se fait-il que ce foulard n'ait plus aucun nœud ? Je sais qu'il en avait trois. Vous avez prétendu en avoir défait deux. Vous avez aussi défait le troisième ? En ne me disant pas la vérité, vous avez voulu me tromper. » Les hommes honteux baissèrent la tête. « Je vous aiderai tout de même, reprit le petit vieillard au bout d'un moment, à cause de vos enfants. La tempête va s'apaiser, vous allez rentrer chez vous, et vous pêcherez assez de poissons pour attendre la bonne saison, je vous le promets. » Devant les hommes étonnés, il prit le foulard et refit le troisième nœud, bien serré. « Ne le défaites jamais, ajouta-t-il. « Non, jamais, jamais, promis, juré, répondirent-ils tous en cœur. » Depuis ce jour-là, ils tinrent parole, eux, leurs descendants et tous les pêcheurs du monde. C'est pourquoi on peut dire encore aujourd'hui « Parole de pêcheur, parole d'honneur. » Le temps passe tellement vite quand on écoute des histoires. C'est fou, non? Déjà 20 minutes que vous écoutez ma voix vous raconter des histoires d'Estonie et d'ailleurs. Merci Quentin pour la technique. Si vous voulez écouter ces histoires-là, elles sont rediffusées. Et puis les nouvelles émissions, c'est toujours le samedi et le mercredi à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, vous le savez, essayez de vous raconter des histoires.